Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On a vu hier que le diable nous a conditionnés à être passifs contre la maladie. Il nous a menti. Et il nous a amené à cet endroit où on pense et de nombreuses personnes croient que la maladie fait partie de la vie. Que c'est normal, qu'on doit l'accepter, on doit se soumettre au diagnostic du docteur, comme si on n'avait pas de choix et qu'on était impuissant devant les symptômes et la maladie. Alors on a vu hier que non, pas du tout. C'est pour cela que Jésus nous a dit résistez le diable.
Et on
a vu que la maladie vient du diable. Alors on peut résister la maladie. Et vous avez noté que Jésus a dit vous résistez. Dieu ne va pas le faire pour vous. C'est nous qui devons exercer notre autorité. Et alors ce soir, je veux parler un petit peu plus. Maintenant, comment recevoir cette guérison? Comment résister le diable? Comment exercer notre autorité et comment recevoir cette guérison? Alors êtes-vous prêt ce soir? Amen. Simplement ce frère là est prêt? Seulement ce frère? Êtes-vous prêt ce soir? Êtes-vous dans l'attente? Et ce soir, si vous avez une maladie quelconque, des symptômes qui tourmentent et qui emprisonnent votre corps, sachez que ce soir, c'est votre soir. Et ce soir, c'est le soir où vous allez vous en débarrasser. Une fois pour toutes. Amen. Vous savez, très souvent, on a cette notion que la guérison, ça vraiment, ça vient de Dieu et ça dépend de Dieu. Que si c'est la volonté de Dieu, bah alors c'est Dieu qui va le faire. Et que toute la responsabilité est sur Dieu. Vous savez, il y avait même un monsieur, son petit garçon était épileptique, avait un démon, et Jésus, à ce moment-là, était avec Jacques, Jean et Pierre sur la montagne de Transfiguration.
Yes, yari kumwe na Yohani, na Yakobo, na Petero, kumusozi hamwe yahindugwamwo.
Et en bas de la montagne, il y avait les 9 autres disciples. Et ce papa a amené son petit garçon vers Jésus. Mais les disciples n'ont pas été capables de chasser le démon et de guérir le petit garçon. Et après, quand Jésus redescend avec ses 3 disciples, ce papa va vers Jésus. Et écoutez un petit peu ce qu'il dit à Jésus. Il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Et Jésus, voyez, cet homme avait la pensée que tout dépendait sur Jésus. Si tu peux faire quelque chose, Jésus s'est arrêté, a regardé ce papa, il lui a dit, si je peux, point d'interrogation, non, si tu peux croire, car tout est possible à celui qui peut croire. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a renversé la situation. Et il a montré à ce papa que toute la responsabilité n'était pas sur les épaules de Jésus. Et il lui a montré, il a dit non. Tu dois partager certaines responsabilités. C'est pas simplement si je peux. Car oui, je peux. Mais la question est-tu prêt et disposé à croire? Merci pour ce un
amen.
C'est pour cela qu'à travers les évangiles, très souvent, Jésus disait aux personnes que ce soit fait selon ta foi. Où il a dit à une femme qui avait une perte de sang, ta foi t'a guéri. Très souvent, Jésus montrait aux gens que leur foi était très importante.
Alléluia. Amen.
Et vous savez, c'est comme ça qu'on a reçu le salut. Que très souvent on se dit, ouais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se passer. Pas automatiquement. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du salut? Parce que vous savez, nous savons que par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné le salut. Et il a donné le salut à toutes les personnes qui habitent la terre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Éphésiens 2:8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia.
Amen.
Mais ça finit pas là. Voyez, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est qui nous est donné gracieusement indépendamment de notre conduite ou de notre performance. Et alors, on voit là que c'est par la grâce qu'on est sauvé, mais c'est au travers de la foi. Et on pourrait dire la même chose au sujet de la guérison. C'est par la grâce que nous sommes guéris, mais c'est au travers de la foi. C'est ce que Jésus a dit. Que ce soit fait selon ta foi. C'est ta foi qui t'a guéri. Amen. La Bible nous dit que si on est croyant, si vous êtes croyant, levez votre main. Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous, si vous êtes croyant, vous êtes juste. Et la Bible dit que le juste doit vivre par la foi. Maintenant, la foi est un style de vie. Il y a un autre verset qui dit aussi dans 2 Corinthiens 5:17 qu'on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Donc, si vous êtes croyant, chrétien, Dieu s'attend à ce que vous appreniez maintenant à vivre et à marcher par la foi. Et c'est comme ça que vous recevez la guérison. Amen.
Amen.
Et alors, ça veut dire que si on reçoit la guérison par la foi, et si on reçoit la guérison en apprenant par marcher par la foi, on doit savoir qu'est-ce que c'est la foi. tout spécialement quand ça vient au sujet de la guérison, on a besoin d'apprendre à marcher par la foi. Parce que nos symptômes, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on en voit, ce que l'on ressent dans notre corps, va essayer de nous arracher notre guérison. Amen. Alors on doit apprendre à marcher par la foi. Alors qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Très souvent, les gens mettent la foi dans un ils généralisent la foi. Ils disent, oh mais je crois.
Non,
on doit voir selon ce que la Bible dit. Qu'est-ce que c'est la foi? On a une définition dans Hébreux 11, verset 1. Il nous dit que la foi est la confiance des choses espérées et l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Vous avez entendu ce que ça dit? La foi, c'est l'évidence, la persuasion des choses que l'on ne peut pas voir. Je vais vous donner ma définition. Hébreux 11, 1 selon Audrey. La foi, c'est être persuadé. Convaincu
de
quelque chose que vous ne pouvez pas voir, sentir ou percevoir par vos cinq sens, vous savez que que c'est réel. Votre corps, ce que vous voyez, vos cinq sens vous disent non, c'est pas vrai, c'est pas réel. Mais vous êtes persuadé de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir dans votre corps. Vous voyez, dans Hébreux 11, on voit tout un tas de gens qui avaient la foi. Ils étaient persuadés de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Et à travers la Bible, je vais choisir deux personnes. Un qui a une bonne histoire et un qui a eu une défaite dans la foi. Dans Romains chapitre 4, versets 19 à 21, on voit un homme qui est appelé le père de la foi. Vous savez de qui je parle? D'Abraham. Et si vous avez la foi, vous êtes appelé les enfants d'Abraham. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps est déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir.
Kandi ntiyagabanuka kukwizera yitegereje umubiri wiwe amaze kuba kaheze kuko yaramaze imyaka nk'ijana y'amavuko yiwe na Sara yaraciye ariko ntiyiyumvira icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icyubahiro amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Amen.
Et qu'est-ce que ça veut dire? que Abraham,
Abraham
a choisi
yatoye
de croire dans la promesse de Dieu
kwizera
au lieu de croire ce qu'il pouvait voir et ce qu'il pouvait sentir. Qu'est-ce qu'il voyait? Sarah, qui était déjà vieille, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui n'avait jamais pu avoir d'enfant. Et qu'est-ce qu'il sentait? Son corps qui était déjà âgé, mais il croyait en la promesse de Dieu. Au lieu de croire, il était convaincu, persuadé que de la promesse de Dieu. Au lieu de croire ce qu'il pouvait sentir ou voir. Mais au contraire, maintenant nous voyons un autre homme. Son nom est Thomas. Dans Jean chapitre 20, voyez, les disciples étaient réunis, mais Thomas n'était pas là. Et soudain, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et ils ont vu finalement que Jésus était ressuscité des morts. Je m'imagine les disciples complètement époustouflés, joyeux et contents. Alors, quelques jours plus tard, ils ont vu Thomas. Il dit, Thomas, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité. On l'a vu, il était avec nous. Et Thomas, il a dit, non.
Oh yeah.
À moins que je puisse voir les trous dans ses mains et que je puisse les toucher, mettre mon doigt dedans. À moins que je puisse voir le trou dans son côté et le sentir, mettre ma main dedans, je ne croirai pas. Qu'est-ce que Thomas disait? Qu'il allait seulement croire ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait sentir. Et alors, quelques jours plus tard, les disciples sont encore ensemble et là, Thomas est avec eux. Et alors Jésus, une fois de plus, apparaît au milieu d'eux. Oh, comme j'aurais aimé être une petite souris qui aurait pu observer. Parce que Jésus a regardé. Il a dit, Thomas, viens ici. Imaginez Thomas un petit peu penaud. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Mais il a dit, Thomas, viens ici, mon grand. Regarde mes mains, regarde mon côté, mets ta main. Thomas, parce que tu as pu voir,
Thomas,
et tu as pu
sentir,
alors maintenant tu crois? Il dit, béni est celui qui ne voit pas et qui ne sent rien, mais qui croit. Ou ce soir, nous pourrions dire, guéri, celui qui ne voit rien, qui ne sent rien, mais qui est disposé à croire. Alors vous devez ce soir prendre une décision. Est-ce que je vais être comme Abraham et croire que je reçois ma guérison, même si je vois rien ou je sens rien? Où vais-je être comme Thomas? Et je vais dire, ah, mais moi je sens rien, je vois rien. Il
n'y
a rien qui s'est passé.
Seul
vous pouvez prendre cette décision. Allez-vous être disposé à apprendre à marcher par la foi ou être comme Thomas? Et croire seulement que vous êtes guéri quand vous voyez quelque chose ou que vous sentez quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Et voyez que Jésus là, il veut que l'on croie en quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on ne sent pas. Mais je sais certains d'entre vous vous dites, mais comment est-ce possible de croire en quelque chose ou en une guérison que je ne sens pas, que je ne vois pas? C'est une bonne question. Mais vous savez, je veux vous encourager. Car on le fait souvent sans même s'en rendre compte. Exemple. Combien d'entre vous ce soir, vous savez que Dieu est réel? Et je
ne
peux plus faire comme ça, je fais. Ils m'ont contraint. Alléluia. Oui, combien d'entre vous, levez votre main si vous savez que Dieu est réel. Amen. Ok. Combien d'entre vous ce matin, comme vous vous êtes levés, vous vous êtes réveillés. Oh, Jésus,
yes,
le Père
Data
et le Saint-Esprit étaient assis au bord de votre lit. Vous les avez vus assis. Ils sont allés vers vous en disant, bonjour, comment vas-tu? Il y a quelqu'un ce matin? Vous avez vu Jésus dans la chair. Vous l'avez touché, vous lui avez serré la main. Ou alors vous avez entendu une voix audible. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un plan pour toi. Il y a quelqu'un? Vous avez entendu une voix audible? Et encore là, j'y étais doucement. Si Dieu parle, il y a tout qui tremble. Amen. Il y a quelqu'un qui a entendu Dieu? Ou alors vous êtes levé, vous avez senti un parfum.
Oh.
Tu sens Dieu là? C'est Dieu, je le sens. Son parfum. Personne. Mais vous êtes disposé à croire que Dieu est réel? Qu'il existe? Qu'il est là? Et vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas touché? Vous ne l'avez pas entendu? Vous ne l'avez pas senti? Félicitations. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Ce matin, vous vous êtes levé. Ce soir, vous êtes venu à l'église en marchant par la foi. En venant à l'église pour entendre au sujet de quelqu'un et de quelque chose que vous ne pouvez pas voir et sentir. C'est la foi. Voyez, vous marchez dans la foi. Combien d'entre vous, vous savez que Jésus a été crucifié? Combien d'entre vous, vous savez que Jésus est mort, il a été enseveli? Qu'il a été ressuscité? Ok. Combien d'entre vous ici ce soir, vous étiez avec Jean au bas de la croix? Il y a quelqu'un ici? Ou alors peut-être vous étiez avec Marie Magdalène au dehors de la tombe.
Il
y a quelqu'un?
Ah,
aucun d'entre vous? Mais vous êtes persuadé, convaincu, vous savez que vous savez que vous savez que Jésus est mort et qu'il a ressuscité. Vous avez la foi. Vous êtes disposé à croire en quelqu'un et quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir par vos cinq sens. Alléluia. Gloire à Dieu. De même manière, vous pouvez croire en Dieu parce que vous comprenez que Dieu, il y a un monde spirituel. Un monde spirituel. Bien sûr, on sait que nous vivons sur la terre. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a et tout ce qu'il existe. Dieu a créé deux mondes, n'est-ce pas? Dans Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16, il dit que Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
On voit que
Dieu,
il
est réel.
N'ukuri.
Mais voyez, il est invisible.
Ariko niboneka.
Et en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles.
Ngo kuko muri we ariho byose byaremwe ivyo mwijuru n'ivyo mwisi ibiboneka n'ibitaboneka.
Voyez, dans ce monde physique,
la terre,
c'est un monde visible. Et c'est pour cela que Dieu vous a donné les cinq sens. Pour pouvoir vivre et opérer dans ce monde. Mais il y a aussi un autre monde que Dieu a créé. Il a même créé avant de créer la terre. Et on voit que ce monde est réel, mais il est invisible. C'est ce que l'on appelle le monde spirituel. Les cieux. Et c'est un monde qui est réel. Mais il est invisible. Et vous voyez, c'est tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Et dans ce monde invisible.
Et
voyez la foi. La foi, ce n'est pas de croire en quelque chose qui n'existe pas. Non, non, la foi, c'est de croire en quelque chose que l'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui est réel. Toute chose invisible est réelle, car c'est dans ce monde spirituel. Et toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu a pour nous, elles sont réelles. La Bible dit dans Corinthiens 1, 20 que toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. Elles sont réelles, ces promesses. Mais elles sont invisibles. C'est ce que la Bible nous dit. Comment le savons-nous? Écoutez bien Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3 nous dit que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En d'autres mots, il dit que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle, invisible, dans le monde spirituel.
Vous
voyez, quand vous voyez le mot spirituel, vous pouvez le remplacer avec la parole invisible.
Alléluia. Amen.
1 Pierre, 2 Pierre, 1, 3. Éphésiens 1, 11.
Éphésiens
1, 11 nous dit que en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. En Christ, nous sommes devenus héritiers. 1 Pierre 1, 4. Commençons au verset 3. 1 Pierre 1, 3. Vous êtes super rapide. Fantastique. Si béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux ou dans le monde spirituel.
ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yatuvyaye ubwa kabiri nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima ituvyaza ukuzuka kw'abapfuye kwa Yesu Kristo ngo tuze twegukire umwandu utazobora utanduye udakabirana mwabikiwe mu ijuru amen.
On vient de voir que en Christ nous avons reçu un héritage.
Turabona neza ko muri Kristo twaronse umwandu
uva ku iragi.
Iryo ragi
a été déposé
byashizwe
dans un endroit qui est incorruptible.
Ahantu hatazo hatasha kumera nabi hatasha gupfa.
Dans les cieux.
Mwijuru.
En d'autres mots, si vous me permettez de le dire comme cela, après que Jésus soit mort, il a obtenu un héritage. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il nous l'a donné. Nous sommes à ce moment-là devenus héritiers en Christ. Et il a pris cet héritage. Il l'a déposé dans un compte bancaire spirituel réservé pour vous. Alléluia. Un compte bancaire spirituel qui vous appartient.
Compte bancaire yo mu buryo bw'impemu yanyu.
Alléluia.
Amen.
Regardez-moi avec un sourire.
Nimundabe muri ko muratwenga.
Certains d'entre vous, vous êtes
bamwe muri mwebwe mumeze nk'abantu.
Vous réfléchissez trop.
Muri ko muriyumvira gose.
Vous êtes en train comme de d'ingurgiter, n'est-ce pas?
Muri ko mwengo muri ko muramiragura.
Mais je sais, certains d'entre vous disent, ok, si j'ai, ok, j'ai un compte bancaire spirituel dans les cieux, mais c'est invisible. Comment est-ce que je vais savoir ce que Jésus a déposé dans ce compte bancaire spirituel? On n'a pas de compte spirituel, compte bancaire en Burundi? Un compte bancaire, comment on dit en Burundi? Kirundi. Monsieur le banquier, comment on dit un compte bancaire? Amen. Vous avez entendu? Ubiko. Et ça vous appartient. Mais c'est dans les cieux. Dans le monde spirituel qui est invisible. Alors comment savoir ce qui est dans ce compte spirituel? Comment savoir ce qui fait partie de cet héritage? Comment savoir ce que Jésus a déposé pour nous? La Bible nous le dit. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il nous dit, 2 Corinthiens 4, 18,
dit,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
2 Corinthiens 4, 18.
Merci beaucoup, Paul. Ça, vraiment, ça m'aide.
Ndashimira cyane Paulo kw'ico kintu kiramfasha.
Nous regardons aux choses invisibles.
Turaba ibitaboneka.
Ça a l'air d'être un bizarre, une contradiction. Comment vous allez regarder aux choses invisibles? Messieurs, mesdames, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Une Bible? Non, vous savez ce que c'est vraiment? C'est une fenêtre spirituelle. C'est une fenêtre. Et à chaque fois que vous l'ouvrez, quand vous ouvrez votre Bible, c'est comme ouvrir une fenêtre dans le monde spirituel. Et ça vous permet de découvrir ce qui est dans le monde spirituel. Et quand vous lisez dans les épîtres de Paul, spécialement, vous découvrez tout ce que Jésus a déposé dans votre compte spirituel. Voyez, à chaque fois que vous ouvrez votre Bible, c'est comme si vous pouvez maintenant regarder ce qui est dans le monde spirituel. Et Mais vous savez, je connais beaucoup de gens, ils ouvrent leur Bible. Ils ouvrent leur Bible, mais pour eux, c'est comme du chinois. Ou du grec ou de l'hébreu. C'est comme du grec ou de l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je
ne
comprends pas. Pourquoi?
Parce
qu'on a besoin du Saint-Esprit.
C'est
le Saint-Esprit
qui
nous aide à ouvrir la fenêtre et qui nous aide à voir dans le monde spirituel.
2
Corinthiens chapitre
9
qui dit que les yeux n'ont pas vu, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur n'a pas perçu toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, mais elles nous sont révélées par le Saint-Esprit. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit du monde, mais un esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions découvrir tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Alléluia. À travers en demandant au Saint-Esprit et en ouvrant notre Bible, on peut découvrir ce qui nous appartient. Et vous savez, en ouvrant ma fenêtre, j'ai découvert que la guérison divine était une des bénédictions spirituelles qui nous avait été donnée et qui a été déposée dans ce compte bancaire spirituel. Alléluia.
Amen.
C'est pour cela, vous vous rappelez que Pierre a dit dans
1 Pierre 2:24,
par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Temps passé. Temps passé. Pourquoi la guérison? Cette bénédiction, le cadeau de la guérison a été payé et vous a été donné et déposé dans ce compte bancaire spirituel. Et maintenant, c'est par la foi, par la grâce de Dieu, la guérison vous a été donnée. Mais c'est au travers de la foi. Croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous pouvez prendre et recevoir.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est pour cela que la guérison, c'est pas vraiment essayer d'obtenir la guérison de Dieu en essayant de le supplier, de mendier, d'essayer de le motiver. Dieu, donne-moi la guérison. Dieu, je suis une bonne chrétienne. Dieu, je suis allée à l'église. Dieu, j'ai payé ma dîme. S'il te plaît, guéris-moi. On n'a pas besoin de mendier, d'essayer de convaincre Dieu, de le motiver ou même de le manipuler. Dieu, si tu me guéris, je vais mettre un million de francs Burundi dans l'offrande. C'est bien de donner une bonne offrande.
Mais
vous n'avez pas besoin de faire un, comment on dit, deal. Vous n'avez pas besoin de faire un contrat ou un échange avec Dieu. Pourquoi? Parce que la guérison vous a déjà été donnée. C'est dans votre compte spirituel bancaire. Mes amis, pensez un petit peu. Ce compte bancaire vous appartient. Cette guérison vous appartient déjà. Dans le naturel, si vous avez un compte bancaire et que vous avez besoin de retirer de l'argent, est-ce que vous allez à la banque?
mbeguragenda muri banke
au guichet
ukaja kuri guichet ukariruti
monsieur le banquier
nyakubaho ucejwe banke urashobora
s'il vous plaît monsieur le banquier
nyakubaho
est-ce que je pourrais avoir
ndashobora kuronga
est-ce que je pourrais avoir 15,000 francs
mahiri 15,000
s'il vous plaît c'est trop 5,000
Nimesha yo yo.
Non, je vais demander à mon ami Thierry ici. Si tu as quelqu'un qui vient à la banque et qui agit comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il va trouver un petit bouton sous le guichet. Sécurité! Sécurité!
Il
y a quelqu'un de bizarre dans la banque. Vous ne feriez pas comme ça, n'est-ce pas? Non, vous allez à la banque avec assurance, confiance, vous vous approchez avec un grand sourire parce que vous savez que ce qu'il y a dans le compte bancaire vous appartient et vous allez pour avec elle se vous demander et recevoir. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5:14. Ça, c'est l'assurance que nous avons en Dieu. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous entend. Si Dieu nous entend, nous avons déjà. Et la guérison vous a déjà été donnée. Alors vous vous approchez avec confiance. Vous voyez, la guérison, ce n'est pas essayer d'obtenir la guérison.
Mais
c'est simplement défendre ce que Dieu vous a déjà donné.
Vous
voyez, c'est pour cela que quand les disciples sont allés vers Jésus,
ils
voulaient marcher par la foi comme Jésus. Il a dit, Jésus, enseigne-nous comment marcher par la foi. Et vous savez ce que Jésus leur a dit? Marc 11:23. Quiconque. Est-ce que j'ai des quiconques ce soir? Si vous êtes un quiconque, levez votre main. Alors, si vous êtes un quiconque, vous qualifiez. Et Jésus a, c'est ce que Jésus a dit que vous pouvez faire. Il leur a dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Vous savez ce que Jésus leur disait? Vous n'avez pas besoin même d'aller vers le Père pour mendier, pleurer, supplier. Il dit non. Vous êtes maintenant des fils de Dieu. Je vous ai donné toute autorité. Et comme moi, au lieu de parler au Père au sujet de la montagne, au lieu de parler au Père au sujet de votre maladie, Dieu, Père, s'il te plaît, guéris-moi, enlève cette maladie. C'est ce que la plupart des chrétiens font. Ils demandent au Père de d'enlever la maladie. Guéris-moi, Dieu. C'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Jésus a dit, je vous ai donné la guérison. Ça vous appartient. Mais afin de l'obtenir, je vous ai donné autorité contre la maladie, contre les symptômes. Parlez à ces symptômes. Parlez à cette maladie. Et commandez-lui de se ôter, de se jeter, de partir de votre corps. Combien d'entre vous, vous voulez obtenir les mêmes résultats que Jésus avait? Je suis coincée. Et pour avoir les mêmes résultats que Jésus avait, nous devons faire ce que Jésus faisait. À travers les évangiles, on ne voit jamais Jésus demander au Père de faire quelque chose. Non, qu'est-ce que Jésus faisait? Il parlait directement à la maladie. Il venait juste de parler à un figuier. On voit quand il était au milieu du lac ou de la mer avec un orage. Jésus n'a pas dit: Père, calme la tempête. Non, qu'est-ce que Jésus a fait? Paix! Il a parlé aux vagues. Il a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Il leur a commandé de se calmer. C'est ce que l'on doit apprendre à faire. Voyez, quand le diable, Dieu vous a donné la guérison, belle est dans ce monde invisible. Et quand les symptômes viennent dans votre corps, ne demandez pas au Père de les enlever.
Non.
Si vous êtes un fils de Dieu, un enfant de Dieu, vous parlez directement à votre maladie, à vos symptômes, à votre corps, et dit:
diabète,
quitte ce corps.
Va,
c'est le temple du Saint-Esprit.
Va-t'en,
diabète. Douleur, je te commande de partir au nom de Jésus. Mal de tête, arrête-toi au nom de Jésus. Papa et maman, si vos enfants sont malades, faites ce que Jésus a fait. Vous regardez votre enfant et vous exercez autorité contre cette maladie. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
La première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est de exercer notre autorité. Sachant que cette guérison nous a déjà été donnée. Amen. Et vous savez, on exerce cette autorité par la foi. Parce que vous allez parler au cancer, ou à la douleur. Et le cancer, la douleur, va vous regarder et va dire: nanananana. Oh, c'est comme ça qu'ils disent en Burundi. Kibisha. Ki-i-i-imisha. Ki-ki-ki-imisha. Alléluia. Mais on doit exercer autorité par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir. Je me rappelle quand j'ai appris cette leçon. J'étais en Inde, j'avais une campagne évangélique. Ils m'ont emmené une femme qui était démonisée. Elle avait loué des serpents, elle a commencé à agir comme un serpent. Je sais qu'ici en Afrique, vous avez vos petits démons aussi. Amen. Et alors, ils m'ont amené cette femme. Et je savais que j'avais autorité. Alors, j'ai parlé aux démons, j'ai dit: démon, au nom de Jésus, je te commande de quitter cette femme. Et après, j'ai attendu, regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout. Alors j'ai dit: au nom de Jésus, va-t'en. J'ai regardé. Ça devenait de pire en pire. Alors j'ai commencé, j'étais frustrée. Ma voix a commencé à s'élever. Les gestes ont commencé à se... D'ici peu, j'ai commencé à m'envoler. Et je liais le démon, je le chassais. Une fois, deux fois, trois fois, quinze, ça a été pendant 15 minutes. Je chassais le démon et je regardais pour voir si elle était libre. Et ça s'est passé pendant 15 minutes jusqu'à ce que j'entende une petite voix à l'intérieur qui m'a dit: Combien de temps tu vas chasser ce démon?
Ati uzakumara amasanga hari kwirukana umudayimoni.
Seigneur, quand je la vois, quand je sais et que je la vois qu'elle est libre. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est devenu avec une petite voix un peu plus autoritaire et m'a dit: tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois? Non, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le sais, que tu as commandé. Et m'a dit: ne sais-tu pas qu'un mot, une parole au nom de Jésus est suffisant? Alors j'avais compris tout d'un coup, j'ai reçu, j'ai entendu ce que le Saint-Esprit voulait que je sache.
Vous
voyez, je marchais par la vue, non par la foi. Alors tout d'un coup, j'ai pris cette femme. Je l'ai regardée dans les yeux. Et j'ai dit: maintenant tu comprends que je sais. Je vais te commander une seule fois de plus. Tu m'entends? Au nom de Jésus, quitte cette femme maintenant.
Vous
voyez, j'ai parlé d'une manière calme.
Je
n'ai pas hurlé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé là. Je suis allée pour prier pour des autres gens. Une autre. Il y avait tellement de personnes. Mais voilà un petit peu ce que le diable essaie de faire. Pendant tout le temps que je priais pour les autres gens, tout en moi voulait regarder ce qui se passait à côté. Ah, je voulais voir. Il y a quelqu'un qui m'a attiré. Je voulais voir. Voyez, si vous restez dans le domaine des cinq sens, le diable va vous battre à chaque fois. Si vous êtes dominé par ce que vous voyez, ce que vous sentez, le diable va vous battre à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est son domaine. 2 Corinthiens 4, 4 dit qu'il est le Dieu de ce monde. C'est pour cela qu'on doit rester dans le domaine de la foi. C'est être persuadé, convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou sentir. Mais on sait que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait, que c'est réel. Vous voyez, quand vous parlez à votre maladie ou la maladie de quelqu'un d'autre, vous commandez à cette maladie de partir. Et vous ne doutez pas, vous savez que le moment au nom de Jésus est plus puissant que cette maladie. Vous savez que même si vous ne voyez rien ou que vous ne sentez rien, que cette maladie doit partir. Alléluia. Amen. Ça, c'est par marcher par la foi. Et après, Jésus leur a dit dans Marc 11:24: quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Écoutez bien un petit peu. Parce que beaucoup de gens just lisent ce verset très vite. Et ils ne voient pas la profondeur de ce que Jésus disait. Et Jésus leur a dit: vous devez croire. Vous devez croire. Maintenant, temps présent, que vous l'avez reçu, temps passé, et vous le verrez s'accomplir, temps futur. Ça veut dire que le moment où vous parlez à cette maladie, maintenant, vous devez croire que c'est fait, que vous avez reçu cette guérison. Pourquoi? Parce qu'elle vous a été donnée, temps passé, et vous verrez la manifestation en futur. Vous voyez, la plupart des gens, ils veulent croire, ils vont croire qu'ils l'ont reçu, quand ils le voient, quand ils le sentent.
Iyo bari kubarabibona kandi bari kubarabyumva muri bo.
Jésus a non non non.
Yes, yavuze ngo.
Jésus a dit vous devez croire. Que vous recevez cette guérison.
Yuko mwakize.
Avant de voir ou de sentir quoi
que
ce soit. Ça c'est marcher par la foi. Pourquoi? Parce que vous comprenez que cette guérison, elle vous a été donnée, accordée, déposée dans votre compte spirituel bancaire. Et par la foi, vous vous approchez, vous commandez aux symptômes de partir, vous recevez la guérison qui vous a été donnée. Même si votre corps dit il n'y a rien qui se passe. Même si votre tête vous dit il n'y a rien du tout qui se passe. Même si le docteur vous dit il n'y a rien qui se passe. Ça c'est marcher par la foi. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Bénis sont ceux qui croient. Même s'ils ne sentent rien, même s'ils ne voient rien. Guéris sont ceux qui croient qu'ils sont guéris, même s'ils ne voient rien, même s'ils ne sentent rien. Et vous voyez, quand vous arrivez en, cette, en marcher par la foi, en, en sachant que vous recevez, que vous l'avez, parce que ça vous a été donné. Avant de sentir quoi que ce soit, vous le verrez s'accomplir. Et combien de temps ça prend? Des fois immédiatement. Mais des fois ça en prend un petit peu plus de temps. Un petit exemple. Jésus.
Yes.
Vous vous rappelez quand il a parlé au figuier?
Il
a parlé à un figuier. Dans Matthieu
21,
verset
19,
il nous dit que Jésus a parlé au figuier.
Il
dit que personne ne mange du fruit. Et la Bible dit qu'à l'instant même, immédiatement, le figuier sécha. Ça nous donne l'impression que Jésus a parlé
au
figuier et immédiatement le figuier est sec. Mais quand vous regardez la même histoire dans l'évangile de Marc, dans Marc 11, dans verset 13, on voit que Jésus a parlé au figuier, que les disciples l'entendirent, et apparemment ils n'ont rien dit, et ils sont partis vers Jérusalem. Jésus a, avec les disciples dans le temple à Jérusalem, a passé la journée. Et verset 20, Marc 11,
20.
Il dit le matin.
Ngomugato,
qu'est-ce que ça veut dire? 24 heures plus tard. Maintenant, 24 heures plus tard. En passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. En fin de compte, dans le grec,
c'est pas
jusqu'aux racines, mais depuis les
racines.
Y a-t-il une contradiction entre Matthieu et Marc? Ne laissez pas tomber, ne déconnectez pas. Donnez-moi une petite minute de plus. Combien d'entre vous, vous me donnez une minute de plus?
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rigole. On vient de voir dans Matthieu que Jésus a parlé au figuier. Immédiatement, il s'échappe. Mais on a vu dans Marc que Jésus a parlé au figuier et que le lendemain, ils sont passés barenganye et que Pierre a dit
hama Petero acaravuga ngo
maître regarde le figuier que tu as séché
wumisha
que tu as maudit hier
wavuma ejo
et sec depuis les racines
wumye kuva mu mizi.
On dirait qu'il y a une contradiction entre les deux. Mais non, quand vous mettez les deux histoires ensemble, vous savez ce que ça veut dire? Que Jésus a parlé au figuier. Mais immédiatement, la puissance de Dieu est allée dans les racines du figuier
et
a commencé à sécher le figuier depuis les racines. Et c'était 24 heures plus tard que le figuier est apparu sec à l'extérieur. Alors je veux vous encourager. Quand vous êtes, quand on commande à cette maladie de quitter votre corps, sachez que la puissance de Dieu va rentrer dans votre corps, attaquer la racine de la maladie et va commencer à sécher et à détruire cette maladie depuis les racines. Et qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, vous le verrez s'accomplir. Tôt ou tard, vous allez commencer à sentir et à voir.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.